Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Claude Régis n'est pas connu exclusivement pour ses qualités, immenses, de metteur en scène. Il est également connu pour les textes qu'il choisit. Il cherche la radicalité, la nouveauté absolue, quelque chose qui tranche complètement avec les phénomènes de mode qu'il aborde. Il fut en 1966 l'un des premiers, si ce n'est le premier en France, à mettre en scène Pinter, à une époque où personne ne voulait de ses textes jugés incompréhensibles. En 1972, il fait jouer Sauvé de Edward Bond au Théâtre National de Chaillot, provoquant un scandale retentissant autour de cette pièce d'une violence inouïe et de ce dramaturge encore inconnu en France. Il popularise Handke, Leslie Kaplan ou encore Sarah Kane, avec des textes qui dérangent et bouleversent, se plaçant parfois à la limite de l'intolérable. Sa dernière création, en 2016, pour le Théâtre des Amandiers, ne dévie pas de cette tendance. Il adapte « Rêve et folie » du poète autrichien Georg Trakl, un texte comme « Phagocyté par la mort », le trauma et l'inceste. Cette pièce de 55 minutes est comme un concentré de toute l'œuvre de Régis. Les spectatrices et les spectateurs sont plongés dans une fresque cauchemardesque, portée par la voix presque inhumaine de Yann Boudot, seul en scène, éclairée par de faibles lumières crépusculaires. C'est de cette ultime mise en scène que s'entretient Claude Régis au micro de Joël Gaillot, dans ce numéro d'une saison au théâtre. L'occasion d'entendre Régis 3 ans avant sa mort, parler avec la passion et l'éloquence qui est sienne depuis toujours de son choix de texte, porté par la force noire et abyssale de l'écriture de Trakl. Vibrer jusqu'à l'indécence avec Claude Régis, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 18 septembre 2016.
Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec Claude Régis. Claude Régis met en scène au théâtre Nanterre-Amandier Rêve et folie, un récit de Georg Trakl. Quelques pages intenses écrites par un auteur né à Salzbourg en 1887 et mort à l'âge de 27 ans d'une probable overdose de drogue. Une poignée de mots, comme une pelletée de terre, que l'acteur Yann Boudot porte à leur incandescence, guidant chacun de nous dans un lent pas à pas vers les tréfonds de l'indicible. Sur le chemin, les cadavres jonchent le sol, la chair se putréfie, l'inceste éveille la culpabilité, la conscience frôle de ses ailes les abîmes. Dans Rêve et folie, il est question de la mort, oui, mais pourtant, c'est bien de vie qu'il s'agit.
On croit souvent que les vieillards sont obsédés par la mort parce qu'ils sentent que ça approche et que ça devient de plus en plus inéluctable et de plus en plus proche, certainement. Et je tenais à dire que ce n'est pas mon cas.
Expérience spirituelle, aventure intérieure, quête méditative, introspection dans la pénombre et la lenteur. Ce que Claude Régis offre aux spectateurs est une stase, un coup de frein salutaire qui interrompt la frénésie de notre quotidien. Claude Régis est un très jeune artiste qui ose « Sourire aux lèvres », titrer son dernier livre publié aux Solitaires intempestifs, Du régal pour les vautours. Drôle de titre, effectivement, qu'Alexandre Barry a repris pour le documentaire qu'il consacre à celui qui est plus qu'un metteur en scène, qui en réalité est un maître. Ce film sidérant d'une douloureuse beauté accompagne la sortie du livre. Ce documentaire, ce livre, cette représentation à Nanterre-Amandier, voilà ce dont nous avons parlé avec Claude Régis, chez lui, dans son appartement qui domine les toits de Paris. Claude Régis, de quelle manière est-ce qu'un texte s'impose à vous comme réclamant la scène ?
Je ne sais pas s'il réclame la scène. Je pense que la première formule est tout à fait exacte, c'est-à-dire que les textes s'imposent à moi. En les lisant, très simplement, il y a une vie, il y a une interréaction qui se fait automatiquement, en fait. Je ne calcule pas, je ne cherche pas, je n'ai pas de savoir particulier, d'ailleurs. Mais je sens comme ça, quand d'une part, il y a une vie, et que cette vie, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que ce soit une vie qui apporte quelque chose d'inconnu. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et peut-être ce qui m'attire beaucoup chez Trakl, c'est qu'on est en bordure de ce qui n'est pas intelligible. Et que la clarté n'est pas mon plat préféré. Et que par ce qu'on croit être obscur, ce qu'on croit être incompréhensible, on touche à des choses. On le voit avec l'œuvre de Trakl, parce qu'on ne peut pas l'analyser vraiment. On ne peut pas disséquer une phrase pour savoir comment même il a pensé pouvoir écrire comme ça. C'est complètement inouï. Et on sait qu'il est passé par la drogue, qu'il est passé par l'alcool, on sait qu'il est passé par la folie, on sait qu'il est passé par le désespoir et l'obsession de l'autodestruction. Et toutes ces choses apparaissent dans son œuvre, évidemment. Mais elles apparaissent d'une manière secrète, d'une manière dont on ne peut pas dire comment il s'y prend pour écrire, d'ailleurs. Je pense que lui, il le savait, parce qu'il a fait énormément de corrections, donc il a choisi de mettre un mot à la place d'un autre, souvent d'ailleurs de sens tout à fait différent. Donc peut-être pour des raisons de sonorité, pour des raisons de rythme, qui bien sûr m'intéressent beaucoup plus que ce qu'on appelle le sens, et pas du tout pour la clarté française, personnellement.
Est-ce que vous diriez que justement l'absence de clarté, qui contient en elle-même une forme de luminosité, c'est le fil conducteur qui relierait tous ces auteurs nordiques que vous avez travaillé ces dernières années, donc Jon Foss, Terje Vissos, Georg Trakl aujourd'hui, Claude Régis?
Oui, certainement. Je fais d'ailleurs un lien entre le passage que je fais de mon dernier spectacle qui portait sur un texte de Vissos et le prochain qui porte sur un texte de Trakl. C'est certain qu'il y a déjà un chemin tracé vers justement ce qui n'est pas directement intelligible. Un moyen d'accéder à ce monde caché, à ce monde secret, mais avec qui les êtres humains sont équipés pour communiquer s'ils ne sont pas aberrés par des lieux communs, par l'interdiction de ce qu'on ne comprend pas directement ou immédiatement. Ce que je pense, c'est que cette façon d'insulter tous les interdits, de franchir toutes les frontières sans aucun contrôle moral, sans aucune limitation, a ouvert des territoires gigantesques, presque sans fin, qu'on ne peut pas atteindre dans la littérature réputée claire de sens.
Dans ces territoires se logerait quelque chose qui s'apparente à la folie, et de cette folie, vous dites qu'on en a besoin, Claude Régis.
Oui, je crois que c'est Leslie Kaplan qui m'a dit ça, que la connaissance n'en serait pas où elle en est si la folie n'avait pas existé. Que la folie est aussi une façon d'accéder, d'ailleurs, Trakl se disait fou, comme Pessoa se disait fou, et penser plusieurs fois se faire interner, et y a renoncé, donc a préféré vivre, écrire dans la folie, que de se faire soigner pour se rapprocher des êtres dits normaux. Mais il faut voir qu'est-ce que c'est que cette société de gens normaux. Hein. C'est quand même un troupeau tout à fait pittoresque et très 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 bizarre et plein de surprises. Et ce sont ces surprises-là qui sont intéressantes.
Une fois qu'on est entré dans ces zones obscures, est-ce qu'on en revient ?
Provisoirement. Tant qu'on n'est pas mort, on en revient.
Avec le désir d'y retourner ?
Qu'on ait envie d'y retourner, ça me paraît non seulement certain, mais ça me paraît essentiel. Et ça, il me semble que les êtres qui stagnent dans une espèce de marécage boueux et non créatif, qui n'inventent rien, qui ne touchent à rien, qui nous changent des habitudes de pensée qu'on peut déjà avoir. Je pense que ces gens-là sont très affligeants pour la société.
Rêve et folie, ce texte, ou ce poème de Georg Trakl, c'est un poème d'une sauvagerie totale qui charrie énormément d'images, qui charrie énormément de sensations. Il est question beaucoup de pierre, beaucoup de froid et même de froid glacé à l'intérieur. Il est question de viol, il est question de mort. Et à cela, vous, Claude Régis, vous allez accoler ce qui vous fait, Claude Régis, c'est-à-dire la lenteur, le silence et l'immobilité. Est-ce que, plus qu'avec d'autres textes, là, ce sont deux forces contraires qui vont se rencontrer et qui vont devoir se conjuguer? C'est-à-dire la force du travail sur la scène et la force interne dynamique du texte.
Devant la difficulté de ce texte, des questions qui se posent de comment trouver la manière de l'interpréter sans le trahir, j'ai eu plusieurs tentations, en fait. Et j'ai changé l'acteur. J'avais prévu de mettre, comme dans le spectacle précédent, certains acteurs qui ne parleraient pas, qui feraient des images. En fait, j'ai renoncé à tout ça. Et j'ai pensé qu'avec Trakl, ce qui était important, c'était de recentrer l'intérêt sur le texte lui-même. Donc, il y a un acteur, il y a un dispositif scénique, il y a de la lumière, il y a du son, mais il y a l'unicité de l'acteur comme il y a l'unicité du texte. Et c'est un travail sur l'écriture. Et je voudrais, de plus en plus, je pense ça, que le spectateur devienne à la fois l'auteur et l'impression qu'il est en train d'écrire, que c'est l'acte même d'écrire. Et en même temps, il est l'acteur, c'est-à-dire qu'il est l'interprète de ce texte, qu'il est au plus près de l'auteur, au plus près du texte. Mais c'est très important que ces trois fonctions d'écriture, d'interprétation et de réception du spectacle par le public soient le même acte. Et c'est très important que le spectacle soit conçu comme une chose active et non pas des gens qui viennent passivement admirer une œuvre plus ou moins terminée, finie. Là, c'est une œuvre en train de se faire et le public fait partie des créateurs qui sont en train de faire le spectacle. C'est pour ça que ça me paraît très important de penser que le public ne vient pas pour admirer, ne vient pas pour regarder, ne vient même pas pour s'instruire. Il vient pour être lui-même créateur et rencontrer ce plaisir de transformer de la vie vivante en une autre forme de vie qui est abstraite, qui est le monde de l'infini, en fait. Je pense aussi que c'est important qu'on essaye, je ne dis pas qu'on y parvient, mais on essaye de toucher à quelque chose qui n'a pas de limite. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, libre comme il était de naviguer au-delà de toutes les limites, il a été toute sa vie rongé par une espèce de culpabilité presque chrétienne. D'ailleurs, il y a des images inspirées par la religion chrétienne. Et dans une interview, il a dit « mais je suis chrétien ». Ce qui fait quand même un chrétien très particulier pour l'Église, je suppose. Mais donc, il est au-delà de ça. Il ne peut pas être libre. Il qualifie sa famille à cause de lui comme une race maudite. Il emploie l'expression exactement qu'emploie la morale pour condamner les incestueux.
Moi, j'étais intriguée, il parle de race dégénérée. Au tout début du texte, il est question de race dégénérée. Ça m'a intriguée, ce mot-là.
Voilà, vous avez raison de souligner ce mot-là. Il arrive à l'idée que l'inceste occasionne une dégénérescence dans les familles. et que les enfants incestueux ne peuvent être qu'anormaux et presque pas vraiment des êtres humains.
Puisque vous parlez d'enfants, Claude Régis, je voudrais qu'on évoque ce passage dans le film que vous consacrez Alexandre Barry, du régal pour les vautours. Ce passage où vous parlez des adolescents et où vous dites que l'adolescence, c'est la période sans doute la plus incisive de la vie parce que tout naît et tout meurt à chaque seconde, que rien n'est terminé, que rien n'a commencé et que c'est un endroit, un moment plutôt de la vie qui est absolument saisissant et qu'on perd ensuite un peu à tout jamais. Je me demandais si le théâtre, pour vous, c'était au fond une quête de l'adolescence, si le théâtre avait ça en lui d'être adolescence, de renaître de ses cendres en permanence.
Parce que c'est justement un moment où les frontières ne sont pas nettement dessinées. On n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas tout à fait un homme, on n'est pas tout à fait un homme, on n'est pas non plus tout à fait une femme. On est un peu quelque chose de tout ça. Donc c'est une période très multiple où on est encore dans une richesse qu'on perd d'ailleurs. Souvent, des enfants très doués à l'adolescence deviennent des grands garçons très ordinaires. Donc il y a bien une sorte de miracle dans ce temps-là, dans ce passage-là. C'est un accomplissement du fœtus, si vous voulez. Mais le moment de la conception et le moment du développement du fœtus est aussi un moment très mystérieux de la vie des êtres humains. Et ce qu'ils deviennent à partir de là, quand ils deviennent vraiment adultes et quand ils font partie des grands, comme on l'appelle, quand ils sont plus des petits, il y a quelque chose de brisé à jamais. Il y a un univers, il y a un monde, comme un monde de contes de fées presque, comme un monde de merveilles qui est effacé à jamais, sauf à l'état de souvenir, à l'état de réminiscence, et peut-être qui se manifeste justement dans certaines écritures.
Mais est-ce que vous n'êtes pas resté quand même pas mal adolescent, Claude Régis ?
Bon, ça, je ne peux pas me juger moi-même. J'analyse que je suis quelqu'un d'un peu bizarre, je suis pas quelqu'un de tout à fait normal, je pense. Je ne vis pas d'une manière très normale non plus, je vis d'une façon très solitaire, très consacrée au travail, et en même temps, je suis très loin de ce travail. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir des connaissances particulières sur ce travail. J'ai réagi à des écritures, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des écrivains vraiment novateurs, j'ai eu la chance de rencontrer de très bons acteurs, mais j'ai eu aussi la chance de travailler dans des écoles, de faire de l'enseignement, donc de rester très proche de la jeune génération, et qui est encore un peu proche de cette adolescence dont on parlait, donc qui a encore beaucoup de possibles qui sont encore là, qui frémissent là encore, d'une manière vivante. De cet enseignement, il est né plusieurs spectacles, c'est-à-dire que je n'ai pas fait jouer que des hautes stars.
Même si on a eu, hein, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, enfin on ne va pas tous les citer, mais il y en a eu.
Il y en a eu en quantité, mais je ne le regrette pas. Mais je veux dire que parallèlement, et presque à contrario, il y a eu aussi la découverte de jeunes talents, comme Yann Boudot d'ailleurs, comme Laurent Casanave plus récemment.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Est-ce que quand vous êtes allé au Japon, et ça aussi c'est quelque chose qui apparaît dans le film que vous consacre Alexandre Barry, on vous voit partir au Japon, séjourner là-bas, travailler là-bas, et on vous voit beaucoup regarder. Et regardez notamment les paysages. Est-ce que vous avez rencontré là-bas justement une qualité de silence qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir ici, en France ou aux États-Unis où vous êtes également allé, ou en Russie, Claude Régis ? Qu'est-ce qui s'est passé au Japon ?
Il y a une qualité de vie en général qui ne se retrouve pas du tout dans nos régions, à nous, occidentales. Et cette qualité vient justement du fait que, je crois, c'est une civilisation qui a su entrer mieux que personne dans l'époque contemporaine et dans la technologie, qui est devenu un mot sacré, que je n'aime pas, ni le mot ni la chose. Ils ont su entrer dans la modernité la plus absolue, la plus récente, et dans tous les progrès que ça peut représenter, avec les inconvénients qu'il y a à faire. Et ils ont su en même temps conserver tout ce qu'il y a de traditionnel et d'ancien dans leur civilisation, et spécialement dans les formes de théâtre comme le no, comme le boudraku, comme maintenant le buto, qui est quand même très inspiré des formes classiques. C'est cette présence du monde ancien qui n'est pas ressentie comme une honte, comme une chose à rejeter, comme une chose démodée, comme une chose de vieillard caduque. Et il y a un contact avec l'ancien et avec les valeurs profondes qui étaient courantes quotidiennement dans ces temps-là. Elles sont mêlées au développement de la modernité, des machines et du bruit qui va avec, d'ailleurs. Il y a toute une étude à faire sur la disparition du silence, par exemple.
Il est d'ailleurs très silencieux, ce film d'Alexandre Barry.
Tant mieux, si la part du silence est très respectée et importante dans le film, et si beaucoup de choses à travers le film s'expriment par le silence, je ne peux que m'en réjouir fortement. D'ailleurs, je suis très heureux de l'existence de ce film parce que je pense que c'est un bon témoignage de moi-même et surtout du travail que j'ai pu faire.
Un des autres points que soulignent ces jeunes metteurs en scène, c'est votre radicalité. On peut dire qu'il y a une forme de radicalité dans cette façon que vous avez depuis des années de tenir la barre de ce que vous voulez faire, d'imposer des jauges qui sont des jauges de spectateurs qui sont celles que vous voulez, de ralentir, de baisser les lumières, d'exiger le silence avant l'entrée dans les salles. Il y a une forme de radicalité qui confine même au combat contre un monde théâtral qui lui est plus proche d'une forme d'ultralibéralisme avec tout ce que ça suppose.
Un monde pas forcément théâtral, un monde tout court d'ailleurs, parce que la lutte contre le bruit, c'est pas seulement avant les spectacles. Si on pouvait lutter contre le... Je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué, peut-être par l'apport de certains étrangers, parce que les Américains parlent très, 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 très fort, mais c'est frappant, même dans la rue, aux terrasses des cafés, tout ça, de voir à quel point les gens hurlent, en fait. Donc c'est une lutte absolument générale contre le bruit. Et aussi, que ça m'a paru que si les gens cessent de se rappeler, par exemple, des courses qu'ils ont fait dans la journée, qui est un grand sujet de conversation quand j'entendais mes voisins parler, donc je me dis que c'est pas du tout une bonne préparation pour entrer dans Vézos ou pour entrer dans Traquel, qu'il vaut mieux commencer par du silence, même si Traquel le qualifie de sombre, d'autant mieux s'il est sombre. Mais en tout cas, de faire passer les gens par un arrêt du bruit et un arrêt de la conversation quotidienne, c'est une chance d'accéder plus facilement aux univers un peu particuliers auxquels on s'adresse.
Une fois, vous êtes venu à France Culture et vous avez crié dans le micro. Vous m'avez dit, si les artistes ne font pas crier, si les artistes ne dérangent pas, ils n'ont qu'à être épiciers.
Oui, c'est vrai.
Et vous l'avez dit en haussant la voix.
C'est la preuve qu'il n'y a d'approche de la vérité que dans les contraires. C'est-à-dire que le silence est essentiel et qu'en même temps c'est un langage qui peut parler beaucoup, mais que de temps en temps le cri, la force du cri peut aussi créer quelque chose qui nous emmène au-delà de nos habitudes, au-delà des sentiers battus, comme on dit.
Plus que peut-être tous les autres textes qu'on a pu voir pris et déployés par vous sur une scène de théâtre, il me semble que le poème de Georg Trakl va au cœur de la mort. Mais ce n'est pas la mort en tant qu'événement, c'est la mort à l'œuvre, c'est-à-dire c'est le pendant, c'est le après, c'est le avant, c'est l'état que prend la mort pour se faire entendre et pour se faire voir. Il y a d'ailleurs un terme très fort de décomposition qu'il emploie, Georg Trakl, où il raconte comment, enfin le narrateur de ce texte raconte comment il observe les taches vertes sur les mains des cadavres. Oui. On ne peut pas être plus près, hein.
Oui, mais je pense que c'est c'est nécessaire. Ça fait partie de la traversée des interdits, si vous voulez. C'est pas bien de parler de la mort. On n'aime pas en parler. En principe, c'est un sujet de conversation qui n'est pas très bien reçu. Et que justement, ces écrivains-là, d'ailleurs je lisais un livre sur Giacometti, à quel point ces statuettes miniaturées font penser à la mort. Genet l'avait déjà observé, et Genet a beaucoup parlé de la présence de la mort dans le théâtre et de la nécessité de la présence de la mort dans le théâtre. Il dit que la scène et la mort sont très proches. Mais c'est ça, c'est cette mort-là dont il s'agit. Ça n'a absolument rien de macabre. Et c'est plutôt, je crois, la recherche, comme Dante l'avait déjà évoqué, la recherche d'un état qui ne serait ni la mort ni la vie. Et Ion Foss a repris ces thèmes-là. Et je pense qu'ils sont dans Vesos et qu'ils sont dans Traquel également. C'est-à-dire qu'il évoque la mort sans cesse. Il est obsédé par la mort et par sa propre mort et la manière de se la donner. En même temps, il y a une force en eux qu'on trouve rarement chez les êtres humains. Donc de là à se demander si le contact avec la mort n'est pas une source de vie, n'est pas une source de force, en fait, beaucoup plus que le fait de l'ablation de tout ce qui touche au mortuaire.
Et contrairement à ce que pourraient dire certains, ça aussi vous le dites dans le film et vous l'écrivez dans le livre du même titre, du Régal pour les vautours, Claude Régis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que vous avez 93 ans et que vous êtes obsédé par la mort que vous souhaitez justement qu'elle intervienne ou qu'elle entre sur les plateaux de théâtre. C'est parce que le théâtre doit en passer par là.
Oui, je tiens à signaler ça parce qu'on croit souvent que les vieillards sont obsédés par la mort parce qu'ils sentent que ça approche et que ça devient de plus en plus inéluctable et de plus en plus proche, certainement. Et je tenais à dire que c'est pas mon cas. Je pense à mourir comme tout le monde. Et dans certains cas, on se dit que ce serait quand même un soulagement, parce que le vieillissement n'est pas du tout un état agréable, en général. J'ai eu la chance de vieillir dans des conditions à peu près potables, mais ce n'est pas un état agréable du tout. Et c'est un état où on est beaucoup plus exposé aux maladies, aux handicaps, aux hospitalisations, aux traitements, à toutes sortes de choses extraordinairement désagréables. Le prolongement de la vie dont nous vante dans les bienfaits de la modernité ne me semble pas très évident. Je ne vois pas à quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour vivre en mauvais état. On ne peut pas garantir à tous les vieillards qu'on va les maintenir dans une fraîcheur d'esprit exemplaire.
Il y a une phrase aussi où vous parlez de la représentation et vous dites cette chose que je trouve absolument magnifique. Vous dites, à un moment donné, tout se met à vibrer jusqu'à l'indécence. Et là, vous parlez de vos spectacles, hein, de vos représentations. Vous ne parlez pas de Traquel, vous ne parlez pas de Foss, vous parlez de la représentation. À un moment donné, tout se met à vibrer jusqu'à l'indécence. Et j'ai l'impression que c'est presque ça la quintessence, au fond, de peut-être ce que devrait être toute pièce de théâtre mise en scène, mais en tout cas de ce qu'est votre théâtre à vous. C'est la vibration jusqu'à l'indécence.
D'exprimer le besoin d'une vibration qui serait en tout cas d'une force inaccoutumé. C'est pour dire que il faut atteindre un état de vibration absolument anormal, et je suggérais qu'il faut peut-être atteindre un état qui touche au scandale, qui peut être scandaleux en fait, parce qu'il passe les bornes, parce qu'il passe les frontières, parce qu'il passe les habitudes, parce qu'il dérange le confort que les gens en général se fabriquent en se protégeant dans des cocons en plastique.
Au fond, c'est vous. La vibration jusqu'à l'indécence, c'est vous, Claude Régis.
Ça me plaît de l'être, ça me plaît d'être subversif. J'essaye de ne pas faire exprès. J'essaye que ce soit le travail qui me rende subversif et qui donne de moi une image qui pourrait faire penser à quelque chose de subversif. Ça ne me déplaît pas du tout, au contraire.
« toute dernière question, Claude Régis. Ce titre, Dieu régale pour les vautours, c'est le titre du film d'Alexandre Barry et c'est le titre du livre.
Ça m'a été déclenché par Pascal Quignard, en fait, dans ce livre, dans un des volumes qui s'appelle Les Désarçonnés. Parce qu'il parle de ça. Il parle qu'il y a une délectation chez le vautour à décortiquer les différentes parties du cadavre. Et que, par exemple, ils préfèrent l'œil, qui a un goût délicieux. En même temps, une fois qu'ils ont bien mangé l'œil, ils ont nettoyé l'orbite, donc ils ont des trous à la place des yeux, et par lesquels ils atteignent le cerveau, qui est aussi, paraît-il, pour les vautours, un plat délicieux. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir que nous pouvons, nous, humains, avec tout l'orgueil que ça représente, toutes les illusions qu'on se fait sur l'humanité, que nous, humains, on peut être tout simplement un bon dessert ou une bonne entrée pour les vautours qui choisissent l'œil d'abord et le cerveau ensuite. Donc, c'est tout à fait magnifique de voir le comportement de ces animaux, qu'on dit des bêtes, pour distinguer les différents goûts et les différentes saveurs que peuvent avoir les parties du corps humain les plus cachées, comme le cerveau qui est enfermé dans une boîte avec des os très solides.
Et c'est un bon titre de film et bon titre de livre.
Ça fait réfléchir, en tout cas, on se demande qu'est-ce que c'est qui régale les vautours. Eh bien, c'est nous.
Georg Trakl, mise en scène par Claude Régis, est proposé au théâtre Nanterre-Montier dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 21 octobre. Le livre Du régal pour les vautours ainsi que le film d'Alexandre Barry sont publiés par les éditions Les Solitaires Intempestives. Une projection en avant-première du film aura lieu le 8 octobre à Nanterre en présence du réalisateur et de Claude Régis. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquier, Pierrick Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent et vous souhaitent une excellente soirée à l'écoute des fictions présentées par Blandine Masson.
C'était Vibrer jusqu'à l'indécence avec Claude Régis, une émission de Joël Gaillot, réalisée par Vanessa Nadjar avec Claude Régis, et diffusée pour la première fois le 18 septembre 2016.